Chapitre 14. Whittle Alexis. Varsovie, 3 octobre. Pourquoi ne m'écris-tu pas, mon Alex? Voici plus d'une semaine que je n'ai de tes nouvelles. À tout hasard, je t'adresse ce billet à Rome. Tu voulais la solitude et je suis parti, te laissant en tête à tête avec ta souffrance, cette souffrance que tu essayais de me cacher, mais que je sentais si bien en toi. Mon ami, te savoir ainsi, seul, déchiré par le regret, est pour moi un continuel tourment. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi que je te reverrai bientôt, mon frère très cher. Alexis à Whittle. Couvent de San Pietro. Non, je ne suis plus à Rome, mon ami. J'ai gagné l'Ombrie et me suis arrêté à ce vieux couvent perdu dans la montagne, près d'un petit bois de chêne. Là, je prie et je m'apaise. Ne t'inquiète pas pour moi. Si je t'ai quitté il y a un mois, ce n'est pas dans un accès de désespoir, mais bien, comme je te l'ai dit, par un irrésistible désir de solitude. Ici, j'ai trouvé ce que je souhaitais. Une cellule, l'isolement, des religieux simples et pieux. Je ne sais encore le temps que j'y demeurerai. Mais je suis toujours avec toi par la pensée, mon bien-aimé frère. Pourquoi es-tu encore à Varsovie? Je t'ai conseillé, quand nous nous sommes séparés, d'aller à Paris pour demander à Madame Chardol la main de sa nièce. Car à quoi bon retarder votre union pendant des mois encore, ainsi que tu le voulais par un souci de ne pas me blesser, dont je te suis reconnaissant très cher, mais qui est sans motif, car je ne m'enfroisserai pas, bien au contraire. Il faut près de toi une tendresse attentive, une sollicitude affectueuse. Il te faut Phyllis. Surtout, pas de scrupules, pas de remords à cause de moi. Je me suis trompé, ce n'est pas à toi ni à elle d'en porter la peine. Je t'écris dans la cellule mise à ma disposition par le père gardien. La fenêtre étroite donne sur le petit parterre du couvent. Au-delà, le bois de chêne escalade la pente. L'air est froid, presque glacé le matin. Il sent la feuille morte et la fleur d'automne. Le torrent mugit au bas du jardin, et c'est le seul bruit de ma solitude en ce moment. Mon âme se repose. Toi, va à ton destin, à ton devoir, à ta vie. Ne pense plus à moi, sinon pour m'aimer, comme je le fais moi-même à ton égard. Au revoir, mon cher, toujours cher Whittle. Un après-midi de novembre, dans le salon gris de la rue de l'Université, Whittle et Phyllis se revirent à l'heure du crépuscule. La main de la jeune fille trembla un peu en recevant le baiser de Whittle. Ils ne parlèrent pas d'Alexis ce soir-là, mais son souvenir était entre eux. Ils n'échangèrent qu'un timide regard d'amour, comme honteux de leur bonheur, alors qu'un autre souffrait par eux. À cette même heure, dans la cellule où s'introduisait le crépuscule, un homme aux yeux tristes pensait à Phyllis. Il revoyait un vieux jardin au clair de lune, une jeune fiancée vêtue de rose qui souriait, et lui, penché vers elle, le cœur lourd de son grand amour, murmurant « Ma Phyllis, ma chérie », baisant le front tranquille, s'enfonçant dans sa lamentable illusion qui aboutissait à tant de souffrances. Il était assis près de la table en bois sur laquelle il s'accoudait, en soutenant de sa main sa tête lasse. Dans l'ombre envahissante, la blancheur des murailles passées à la chaux éclatait encore, en se voilant de minute en minute. L'air du soir, frais et sec, entrait dans la cellule en y apportant de subtils parfums d'automne. Mais Alexis, qui les avait aimés naguère, qui les avait si souvent respirés avec Whittle dans leur vieux domaine de Pologne, ne les sentait plus maintenant. Un coup léger fut frappé à la porte et un religieux entra. C'était le gardien, le père Angelo. Des yeux noirs, calmes et profonds, éclairaient le visage très mat, jeune encore. Ils s'arrêtèrent sur Alexis qui se levait et leur douceur se nuança de compassion. « Vous voilà encore dans vos pensées douloureuses, mon pauvre enfant !» Le religieux, s'approchant, posait sa main sur l'épaule du jeune homme qui le regardait d'un air vague et triste. « Ne restez pas ici, venez à la chapelle, c'est l'heure de l'office et vous prierez pour que Dieu vous envoie la résignation. » « Je suis résignée, mais il faut que la paix se fasse en moi peu à peu. »« Elle se fera. Comme Dante vieillit, vous êtes venu frapper ici en demandant « Pace !» Elle viendra à vous avec la joie en Dieu. » Alexis murmura mélancoliquement « La joie !» Le père Angelo l'entraînait le long des corridors obscurs. Ils entrèrent dans le cœur de la chapelle où déjà les religieuses étaient agenouillées. La lumière jaune de quelques cierges vacillait dans la pénombre. Une vague senteur d'encens, de cire, de vieilles pierres flottait sous la voûte basse du petit sanctuaire où le silence n'était coupé que par la toux légère d'un des moines bruns ou le glissement des genoux sur le bois ciré des stalles. Le père gardien gagna sa place et Alexis s'agenouilla au hasard. Ses bras s'appuyèrent à l'accoudoir, sa tête retomba sur ses mains jointes. La voix ferme du père Angelo commença. Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus, noster omnipotens, qui est et qui erat, et qui venturus est. Et les voix réunies des frères continuèrent. Et laudemus et super exaltemus eum in secula. L'ombre devenait profonde en toute la partie de la chapelle que n'atteignait pas la faible lueur des cierges. Dans cette incertaine clarté, on distinguait à peine les bustes ployés sous la bure franciscaine, les visages jeunes ou vieux, les crânes rasés entourés de la couronne de cheveux et les bras étendus avec les mains ouvertes selon la coutume de l'ordre. La prière alternée continuait. En son cœur, Alexis répétait les paroles de louange à la gloire du Très-Haut. Sa foi seule le soutenait en ses heures de détresse et lui donnait la force du sacrifice. Mais l'apaisement qu'il demandait chaque jour ne lui était pas encore accordé. Maintenant, les moines disaient les oraisons, puis le rosaire franciscain. L'un d'eux, d'une voix monotone et lente, fit une courte lecture spirituelle, après quoi tout se tut et les frères se recueillirent dans l'oraison intérieure. Alexis essaya de les imiter, mais sa pensée, un instant retenue, s'évadait de nouveau. Il regardait les formes agenouillées, immobiles, et il songeait « Parmi ces hommes, il en est sans doute qui ont souffert autant que moi, plus que moi peut-être. Ont-ils trouvé ici l'oubli et cette joie dont me parle toujours le père Angelo ?» Il se souvenait que le gardien, au début de son séjour à San Pietro, lui avait dit « Il y a dans un couvent de notre ordre un religieux qui a connu, étant dans le monde, une épreuve presque semblable à la vôtre. Aujourd'hui, il est pacifié et le plus gai, le plus heureux de nous tous. » Quelques mots, ensuite, avaient fait penser à Alexis que ce religieux devait se trouver à San Pietro. Et voici que ce soir, il cherchait à deviner lequel d'entre les frères agenouillés là avait pu souffrir comme lui. Était-ce le père Luigi, le jeune savant aux paroles et aux sourires pleins de charme, ou le père Giacomo, dont le rire était si communicatif, ou le doux père Alberto, ou bien le père Raimondo, au visage creusé, aux yeux ardents et vifs, qui avait toujours un mot gai et semblait en possession d'une perpétuelle allégresse? Lequel, et par quelles voies longues et rudes, était-il parvenu à cette paix bienheureuse? Un des moines redressa la tête pendant quelques secondes. À la vague lueur, Alexis reconnut le beau profil du père Raimondo. Il crut percevoir comme un soupir léger. Était-ce lui? Et avait-il vraiment bien tout oublié, tout jeté dans l'abîme de l'amour divin? La tête du religieux retomba entre ses mains et Alexis ne vit plus que son crâne rasé, la couronne sombre de ses cheveux et le grossier froc brun confondu dans l'ombre avec le bois de la stalle. À son tour, il essaya de prier Dieu. Dans l'obscurité, dans le silence, il sentit se calmer sa douleur, s'endormir son regret, et son âme s'unit à celle des fils du Saint d'Assise qui implorait Dieu et lui rendait grâce dans l'humble chapelle cachée en un coin de la montagne sous ce ciel qui vit passer François, le pauvre du Christ.